Alors j'ai eu mon brevet et on m'a demandé qu'est-ce que vous désirez comme affectation. Comme j'avais l'impression que ça n'avait pas été trop difficile, j'ai demandé à voir pour passer dans la chasse. Mais on m'a dit, oh, vous avez peu de chance, Chartres ne mène pas à la chasse. Chartres mène à l'observation. J'ai dit, ben oui, je sais bien, mais j'aimerais mieux, enfin. Et j'ai été affecté à Avord. Alors à Avord, là, c'était du perfectionnement, c'est-à-dire qu'on fignolait le pilotage. On fignolait le pilotage en commençant par faire du rouleur. Le rouleur, c'était des avions auxquels on avait coupé les ailes, les deux tiers de la longueur, à peu près des ailes. Ils n'avaient plus que des petits moignons, comme des manchots, si vous voulez. Et il fallait s'asseoir dedans, rouler sur la piste et devant une grande ligne droite, essayer de suivre cette ligne droite. Eh oui, mais seulement voilà, il fallait que l'avion veuille bien en faire autant. Et généralement, il ne voulait pas. Dès qu'on mettait les gaz, eh bien, il se mettait en cheval de bois. Parce qu'il n'avait presque plus d'ailes. Alors, il se dirigeait mal. Alors, c'était désespérant, c'était horrible comme travail. Parce que on roulait sur une mauvaise piste avec des petits pneus très minces. Tous les cailloux qu'on rencontrait, on les sentait. On se heurtait dans la carlingue on n'était pas du tout protégé des coups parce qu'il y avait le châssis tubulaire de la machine qui flanquait des coups à droite, des coups à gauche. On se battait. Et puis, je me suis dit, ça ne va pas du tout, jusqu'au jour où la machine a bien voulu aller marcher droit. Pourquoi? J'en sais rien. J'avais trouvé le truc. C'est-à-dire qu'il fallait accélérer assez brusquement pour lui faire prendre tout de suite un peu de vitesse, tandis que si on y allait trop doucement, eh bien l'avion avait toute tendance à avoir une roue qui résistait plus que l'autre et à se mettre en virage. Alors ça se passait au sol. Et puis, il y a eu différents systèmes de rouleurs. Mais enfin, et puis après, on avait droit au blériot. Blériot traversé de la Manche. Quel outil! Quand on pense que on a traversé la Manche avec ça. C'est un avion qui n'obéissait pas, qui ne se commandait pas. On pouvait lui faire ce qu'on voulait, il faisait sa petite affaire tout seul. Il décollait quand il en avait envie, et puis se reposait quand il avait envie. Tourner n'était pas question, il n'était pas question de tourner. D'abord, il n'aurait pas obéi, il aurait fini tout droit. Alors, on montait là-dessus, on mettait le moteur. Au bout d'un certain temps, le moteur finissait par faire prendre assez de vitesse dans l'avion pour qu'il se soulève. Il faisait une petite distance comme ça, et puis comme on voyait arriver le bout de la piste, on coupait les gaz et il se reposait. Ça, je dois dire que ça volait tout seul, mais ce n'était pas le pilote qui le faisait voler, absolument pas. Alors après, on tombait alors dans les avions plus modernes et bien plus agréables. Un Morane parasol, est-ce parasol? Oui, je crois, un parasol, qui volait très bien, décollait très bien, mais c'était un vrai fer à repasser. Dès que le moteur était coupé ou mis au ralenti, il s'enfonçait à toute allure. Alors il fallait bien prendre ses mesures pour arriver à l'endroit voulu de la piste pour se poser. Mais enfin, ça allait. Et puis après, le Nieuport, les différents types de Nieuport. Alors ça, c'était pour le moment la perfection. Ça allait très bien.
Et avant, donc, vous êtes resté.
J'ai dû rester 2 juillet ou septembre, je croirais. Oui, 2 mois à peu près. Parce qu'il n'y avait pas. À ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de demandes. Le front ne demandait pas beaucoup de pilotes. Là, je pense que la raison, c'est que ce n'était pas les besoins qui manquaient, c'était les avions qui manquaient. Je pense qu'il n'y avait pas assez, la fabrication ne suivait pas assez vite. Parce que il semble que mes camarades et moi, nous ayons perdu un peu notre temps à Avord à la fin. Nous n'avions plus grand-chose à faire et nous ne pouvions plus apprendre grand-chose.
Et vous étiez impatient de.
Ah ben, impatient de mettre à l'épreuve nos connaissances toutes nouvelles en escadrille, mais ça, c'était pas fait. D'abord, à Avord, il fallait tout de même une certaine durée, un certain temps d'apprentissage, même si nous croyions savoir piloter, parce qu'il y avait un très gros risque sur les avions que nous avions, c'était la perte de vitesse. La perte de vitesse suivie d'une vrille et la chute. aussi par précaution, les réservoirs sur les Nieuports étaient des réservoirs en cuivre, j'en rappellerai toujours, qui étaient devant le pilote, entre le moteur et le pilote. Le pilote était à l'arrière des ailes. Et on avait placardé gentiment une feuille renéotypée avec une tête de mort et deux tibias que nous avions en permanence sous les yeux avec un grand titre « Ne perdez pas votre vitesse ». Et ce n'était pas inutile car un jour où je faisais des tours de piste, je pars derrière un autre avion qui part devant moi. Je ne connaissais pas le pilote. Mais je vois le pilote qui grimpe trop vite. Et puis, chut, l'avion se met en vrille et tombe sur le hangar. Ça vous donne une petite impression pas très agréable de voir que votre prédécesseur vient de se tuer. Enfin, c'était des risques normaux.
Il y avait beaucoup d'accidents?
Heureusement, pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est un des seuls accidents mortels que j'ai vu à Avor. En général, non. Surtout, on cassait du bois à l'atterrissage. Ça, beaucoup. Mauvais atterrissage, pilote, etc. Mais enfin, en général, on s'en tirait avec quelques bosses.
Et alors ensuite, vous avez pu...
Ah,